Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la situation désespérée des habitants du quartier de Yarmouk à Damas. Nous reviendrons sur la session annuelle de la Commission du désarmement, sans oublier la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Dans le dossier coup de projecteur avec le Comité international de la Croix-Rouge sur la situation humanitaire au Yémen, enfin ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire de Fréquence Santé. Les réfugiés palestiniens du quartier de Yarmouk à Damas en Syrie sont désespérés. C'est ce qu'a déclaré lundi l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Alors que les combats s'intensifient dans ce quartier résidentiel qui compte quelque 18 000 habitants assiégés depuis 2 ans par le conflit, l'agence onusienne exhorte tous les acteurs armés à cesser les hostilités qui mettent en danger les civils et à se retirer immédiatement des zones peuplées de civils. Elle appelle les États concernés à exercer leur autorité et à influencer pour mettre fin au combat. Une situation alarmante examinée ce matin par le Conseil de sécurité. Sami Chacha, porte-parole de l'UNRWA.
La situation dans le camp est terrifiante. La population dans le camp et aux alentours vit dans la peur constante. Adultes, enfants et personnes âgées sentent qu'à n'importe quel moment, leur vie pourrait être mise directement en danger. Ils s'inquiètent de voir que les appels de la communauté internationale et de l'UNRWA visant à exclure la population civile tombent dans l'oreille d'un sourd. C'est pour cela que l'UNRWA appelle toutes les parties concernées à s'abstenir de s'attaquer aux civils présents dans le camp. Selon les informations qui nous proviennent du camp, les gens cherchent à fuir, mais la situation sécuritaire ne le leur permet pas.
Sous la présidence du représentant permanent du Sénégal, Fodé Seck, la commission du désarmement a entamé ce matin à New York sa session annuelle. La session d'une durée de 3 semaines achèvera ses travaux le 24 avril. Depuis une quinzaine d'années, la commission n'a pas été en mesure d'adopter, à l'issue de plusieurs cycles de négociations, des recommandations sur un 3e point de l'ordre du jour concernant le désarmement nucléaire et les armes conventionnelles. Une situation que Fodé Seck espère voir changer.
Aujourd'hui, notre commission, qui joue un rôle extrêmement important dans le processus de construction et de maintien des normes de désarmement mondiaux, après plusieurs cycles de blocage, au terme desquels aucune recommandation n'a pu être faite, entame cette année un nouveau cycle dont la première étape de fond commence aujourd'hui. Le régime mondial du désarmement et de non-prolifération, nous le constatons tous, se heurte depuis quelques années à de nombreux obstacles qui freinent considérablement les avancées. Ce constat de blocage dans les instances du désarmement, à mon sens, doit susciter un sérieux effort diplomatique multilatéral en vue d'apporter une réponse collective et efficace aux défis sécuritaires auxquels fait face l'humanité. Unilatéralisme, bilatéralisme, plurilatéralisme, ils ont quelque chose de bon, mais enfin, ce n'est pas la panacée pour la communauté internationale de parvenir à des désarmements effectifs, classiques comme nucléaires.
En 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 6 avril comme Journée internationale du sport pour le développement et la paix. La deuxième Journée internationale du sport pour le développement et la paix est donc célébrée aujourd'hui. Elle est l'occasion de mettre en valeur la contribution du sport à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La journée permet aussi de faire valoir l'appui des sports à la paix et au développement et leur contribution à créer un climat de tolérance et de compréhension. Wilfried Lemke, conseiller spécial des Nations Unies pour le sport au service du développement et la paix.
D'abord, le sport s'est imposé comme un outil efficace pour le développement et la consolidation de la paix. Le projet Sport au service du développement et de la paix dans le monde a abordé un grand nombre de défis auxquels la société a dû faire face, faisant du sport un élément important dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle série d'objectifs de développement durable pour l'après 2015, nous devons faire en sorte que le sport continue à jouer ce rôle bénéfique. Ensuite, les partenariats sont le fondement de notre travail. Grâce à une coopération systématique, nous avons été en mesure de rendre le sport et les activités physiques accessibles et inclusifs pour des millions de personnes de tous âges et de toutes capacités à travers le monde. Travaillons ensemble pour tirer le meilleur parti de l'énorme potentiel que recèle le sport pour faire avancer le changement social partout dans le monde.
Enfin, le journaliste syrien et militant des droits de l'homme Mazen Darwish, actuellement emprisonné, est le lauréat du prix mondial de la liberté de la presse UNESCO Guillermo Cano 2015. Par ce choix, le jury reconnaît le travail accompli en Syrie depuis plus de 10 ans au prix de sacrifices personnels considérables. Interdiction de voyager, harcèlement, privation répétée de liberté et torture. Le prix sera décerné au lauréat ou à son représentant à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai prochain. Florence Westgaard.
Mazen Darwish, le lauréat du prix mondial de la liberté de la presse UNESCO Guillermo Cano 2015, est le président du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, fondé en 2004. Il est également l'un des fondateurs du journal Voice et de SyriaView.net, un site d'actualité indépendant interdit par les autorités syriennes. En 2011, il a créé Media Club, le premier magazine syrien consacré aux médias. Il est détenu depuis février 2012. Le 15 mai 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui exige des autorités syriennes qu'elles libèrent immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les membres du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression. Créé en 1997, le prix Guillermo Cano, d'un montant de 25 000 $, rend hommage au journaliste colombien assassiné à l'entrée du bureau du journal El Espectador à Bogota le 17 décembre 1986.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a obtenu l'autorisation de faire atterrir des avions au Yémen pour transporter personnel et équipement médical. Les combats, notamment à Aden, se sont intensifiés entre les troupes gouvernementales et les rebelles houthis. Le CICR a aussi appelé à un arrêt des combats à Aden pendant que la Russie a exhorté, elle, le Conseil de sécurité à soutenir une pause humanitaire, et ce alors donc que les bombardements se poursuivent. Marie-Claire Fegali, porte-parole du CICR au Yémen, explique comment cette autorisation a été possible, des propos recueillis par Tsigé.
De par nature de notre travail, quand nous demandons une autorisation de faire acheminer une aide médicale, une assistance médicale dans un pays où l'espace maritime, l'espace aérien et mais les routes aussi sont bloquées, nous le demandons à tous les parties concernées. Ceci dit, nous voulons dire par là les autorités yéménites, les autorités actuelles, les acteurs armés, les groupes armés qui se battent, mais aussi la coalition. Donc, quand nous avons demandé la permission d'avoir cette aide, cette assistance médicale arrivée au Yémen en toute sécurité, nous avons parlé à absolument tout le monde.
Est-ce que cette aide humanitaire est déjà sur place? Et si ce n'est pas le cas, quand prévoit-on son arrivage?
L'assistance médicale dont nous avons besoin, il s'agit là de 48 tonnes d'assistance médicale, de matériaux chirurgicaux, de médicaments, mais aussi de tentes et de générateurs pour aider les hôpitaux à continuer à fonctionner en vue des problèmes de manque d'eau et d'électricité auxquels ils font face. Il s'agit de 48 tonnes qui sont prêtes à être acheminées au Yémen depuis le Djibouti, depuis Amman, mais aussi depuis Genève. Et il s'agit de les faire venir au plus tôt possible. Nous avons grand espoir, après avoir obtenu les permissions nécessaires, de les avoir demain ou après-demain.
La semaine dernière, les aéroports et les ports du pays avaient été fermés. Qu'en est-il à l'heure actuelle?
Les aéroports et les ports demeurent toujours fermés. De par nature de nos négociations, quand nous demandons de faire acheminer de l'aide médicale, nous demandons notamment aussi qu'il y ait un aéroport ouvert. Et il s'agit là de l'aéroport de Sanaa. Et comme je viens de mentionner, donc nous avons obtenu la permission. Et cette permission comprend aussi le fait de pouvoir se poser avec un avion cargo à Sanaa.
L'aide humanitaire dont vous parlez, est-ce qu'il s'agit de l'acheminer vers les deux grandes villes, à savoir Sanaa et Aden, ou bien est-ce qu'elle couvrirait la totalité du pays?
Ça couvrirait la quasi-totalité du pays, avec notamment une mise en accent sur les endroits qui en ont le plus besoin. Il s'agit en premier lieu de Aden et d'autres gouvernements où les combats demeurent intensifiés, en plus des frappes aériennes, parce que, rappelons-le, il s'agit de frappes aériennes, mais aussi de combats qui continuent depuis un moment. Et nous allons répondre par priorité. Donc, cette aide-là, elle est supposée couvrir le territoire pour une période de temps. La période de temps dépendra largement de l'intensité des combats et des frappes aériennes. Mais nous devons en premier répondre aux urgences là où elles se trouvent, mais ça couvrira effectivement la totalité du pays.
Pourriez-vous donner une vue d'ensemble de la situation humanitaire dans la capitale ?
La situation humanitaire dans la capitale est difficile, elle aussi. La pression sur un système, sur le système médical, elle devient répartie sur le pays. En plus, il ne faut pas oublier que le Yémen, c'est un pays qui importe 90% de sa nourriture. C'est un pays aussi qui souffre d'une sécheresse. Donc, il y a un manque d'eau depuis déjà avant les conflits. Avec les routes maritimes, les routes aériennes, mais aussi les chemins dans le pays qui sont quasiment fermés à cause des combats, il est difficile dans la capitale Sanaa d'avoir aussi ce qu'il faut en termes de nourriture, de carburant et de soins médicaux.
Fréquence santé. Santé.
Les aliments insalubres et avariés provoquent de nombreuses maladies et sont à l'origine, selon les estimations, de près de 351 000 décès en 2010, dont de nombreux enfants. Tel est le constat de l'OMS qui a décidé cette année de consacrer la Journée mondiale de la santé, le 7 avril, à la sécurité sanitaire des aliments. La région africaine enregistre le fardeau le plus élevé. Les précisions du docteur Kazuaki Miyagishima, directeur du département de l'OMS chargé de la sécurité sanitaire des aliments. Des propos recueillis par Alpha Diallo.
La sécurité sanitaire des aliments, c'est un thème très important de l'ordre de la santé publique, mais elle ne reçoit pas une attention requise par le gouvernement et par les consommateurs eux-mêmes. C'est pour ça que nous avons souhaité mettre en lumière la sécurité sanitaire des aliments pour cette année, pour construire un pont entre les différentes agences qui sont impliquées pour assurer la sécurité sanitaire des aliments au niveau national.
Et quelles sont les conséquences de ces aliments insalubres sur la santé des consommateurs ? C'est-à-dire, il y a combien de malades, combien de décès de façon générale ?
Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de chiffres exacts pour estimer l'étendue de dégâts causés en santé publique. Mais nous avons quelques chiffres selon lesquels, en 2010, en une année seule, 22 maladies entériques a causé 582 millions de cas d'infection d'origine alimentaire, dont 351 000 décès. Et ça, c'est un chiffre pour le monde entier.
Et selon votre document, la région africaine enregistre le fardeau le plus élevé des maladies entériques d'origine alimentaire. Pourquoi la région africaine est plus exposée ?
La région africaine, c'est une région jeune. Juste à titre exemplaire, 40% des malades et des décès que j'ai mentionnés sont chez les enfants de 5 ans ou moins. C'est-à-dire que les enfants qui ne constituent que 9% de la population du monde sont touchés jusqu'à 40% de tous les infections et des décès. C'est-à-dire que la région africaine, d'abord, c'est un jeune continent avec beaucoup d'enfants et les enfants ont tendance à être fragiles à cause de leur système immunitaire qui n'est pas encore complètement développé.
Pour revenir un peu sur les conséquences, c'est-à-dire quels sont les agents pathogènes qui sont responsables de ces décès, c'est-à-dire les bactéries ou virus ?
Il y a les bactéries et les virus, mais deux bactéries les plus importantes à l'échelle mondiale sont des salmonelles et des Escherichia coli pathogéniques.
C'est des pathogènes qu'on trouve dans quel type d'aliments à peu près ?
Sont des pathogènes qui sont assez fréquents sur les produits carnés, mais ils se trouvent de temps en temps sur les légumes aussi. Donc, ce sont des pathogènes qu'on peut maîtriser en appliquant une chaleur pour tuer les bactéries. Mais souvent, quand les produits carnés ne sont pas suffisamment cuits, ou bien pour les légumes qui sont mangés crus, alors il y a un risque.
Alors, que peuvent faire les consommateurs et les décideurs publics pour une meilleure protection de la sécurité sanitaire des aliments ?
Alors, les consommateurs, ils peuvent déjà prendre un certain nombre de mesures. Donc, l'OMS promeut l'application de 5 clés de bonnes pratiques hygiéniques dans la cuisine. Et donc, en appliquant ces 5 clés, les consommateurs peuvent rendre sûr déjà un certain nombre d'aliments, éliminant un certain nombre de dangers. En ce qui concerne les contaminations chimiques, il est plus difficile pour les consommateurs de les éliminer au moment de la consommation. Donc, il faut bâtir tout un système qui garantit la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire que nous devons avoir le gouvernement qui investit dans le système de contrôle de qualité, dans le système d'inspection des aliments, à tous les niveaux de la production jusqu'à la consommation, tout au long de la chaîne alimentaire.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.